Bonjour frères et sœurs, donc on va commencer notre petite méditation ce soir. Donc comme à l'accoutumée, je vais vous lire donc un cantique que j'ai traduit de l'anglais que nous n'avons pas dans nos livres de cantiques. Donc ce cantique s'appelle tout simplement Ô notre Dieu. Donc je lis pour vous ce cantique. Ô notre Dieu, qu'est-ce qui t'a conduit à donner ton Fils, à livrer ton bien-aimé pour nous qui sommes anéantis par le péché? C'était ton amour sans limite qui t'a ainsi conduit à donner ton bien-aimé pour nous. Ô notre Dieu, qu'est-ce qui a conduit ton Fils à quitter son trône dans les cieux pour verser son sang précieux, pour souffrir et mourir? C'est son amour sans limite pour nous qui l'a conduit à mourir et à souffrir ainsi. Qu'est-ce qui t'a poussé à répandre ton esprit depuis les cieux et avec lui de remplir notre cœur avec une paix et un amour céleste? C'était ton amour sans limite pour nous qui t'a poussé à nous donner ainsi ton esprit. Quelle est grande notre dette d'amour envers toi, notre Dieu, pour toute ta grâce. Nos cœurs devraient déborder en louanges sans fin. Ô Dieu, donne-nous de te louer pour ton amour sans limite pour nous. Voilà, donc bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Donc voilà, c'est donc aujourd'hui le deuxième message d'une petite série en fait qui fera trois messages. On avait pensé en faire deux au début, mais je vais également conclure la série la semaine prochaine, donc jeudi prochain, par un troisième message, donc sur le thème en fait des venez à moi, donc les venez à moi de la Bible. Donc tous ces passages où la parole de Dieu, où Dieu lui-même nous dit, venez à moi. Nous avons vu donc qu'il y a très souvent des passages comme cela dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et Dieu donc parle aux hommes et leur dit, venez à moi. La semaine dernière, nous avons vu le cas de ceux qui sont fatigués et chargés. Donc Jésus leur dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ces gens donc étaient épuisés physiquement et psychologiquement par la dureté de cette vie, par la faim, par la maladie, par l'angoisse du lendemain, par la peur de la mort. Et Jésus leur a promis du repos. Il ne s'agit pas tant du repos physique que du repos spirituel. Tous ces problèmes de la vie que nous connaissons finalement tous, ils viennent du péché. Et Jésus promet à ceux qui viennent à lui de les délivrer du péché et de ses conséquences, surtout de la mort éternelle. Et il leur offre le repos avec lui pour toujours, la vie éternelle. Nous voulons maintenant regarder donc un autre venez à moi. Et donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Donc, Ésaïe au chapitre 55. Et donc, je lis les trois premiers versets. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi poussez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc la semaine dernière, on a déjà vu donc un venez à moi qui se trouvait dans le livre d'Ésaïe. Donc c'était en fait au chapitre 1. Et le contexte, hein, donc le contexte était un contexte historique bien précis. C'était le contexte de l'invasion en fait de Juda par la terrible et la cruelle armée des Assyriens. Et donc les gens étaient finalement fatigués et chargés en quelque sorte à cause de toutes ces horreurs qu'ils avaient subies. Et donc ça se passait aux environs de 700 avant Jésus-Christ. Ici, donc on est au chapitre 55, toujours dans le même livre, mais le contexte n'est plus le même, c'est un contexte qui est beaucoup plus général, qui n'est pas nécessairement temporel. Mais le chapitre 55, il se trouve deux chapitres après le chapitre 53. Et le chapitre 53, c'est un des plus beaux chapitres de l'Ancien Testament, qui donne une annonce prophétique, sans doute la plus précise et la plus belle, de l'œuvre de Jésus-Christ pour sauver son peuple de ses péchés, par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Et donc, on peut dire en quelque sorte que ce chapitre 55, qui vient deux chapitres plus loin, est en quelque sorte baigné par la lumière de Jésus-Christ qui resplendit depuis le chapitre 53. Ça donne donc une idée du contexte. Celui qui parle donc dans notre passage que je viens de lire, c'est l'Éternel Dieu, ceci est clairement indiqué dans le reste du chapitre 55. Et il fait un appel qui est très large. Son appel, c'est fait à vous tous. Il s'adresse à tous ceux qui ont soif. Alors évidemment, c'est une image, ce n'est pas une soif physique, mais de quelqu'un qui est déshydraté, mais c'est... En fait, il parle à ceux qui ont en eux un besoin, à l'image aussi fort, aussi pressant d'une personne qui est déshydratée, qui a très soif. On a tous fait cette expérience de la soif. Je me rappelle quand nous étions enfants, nous allions en vacances à la montagne et nous faisions des grandes balades dans la chaleur de l'été. Quelle n'était pas notre joie lorsque tout à coup nous trouvions une fontaine d'eau potable, nous pouvions remplir nos gourdes et nous buvions goulûment l'eau de la fontaine pour étancher notre soif. Et ce passage nous dit que, en fait, tous les hommes ont en eux cette soif. On pourrait dire qu'ils ont en eux un manque de quelque chose. La semaine dernière, on a parlé de gens donc, qui étaient fatigués et chargés, de personnes qui étaient en quelque sorte broyées par la dureté de cette existence. Mais ici, ce n'est pas pareil. L'appel est fait à des personnes qui ressentent en elles un manque. Vous pouvez être une personne à qui la vie a bien réussi. Vous ne souffrez pas de la maladie, de la guerre, du chômage, de la mort d'un être cher. Vous avez un bon travail, vous avez la jeunesse, vous avez la santé, vous avez des projets, vous offrez de belles vacances, vous venez peut-être de vous acheter un bel appartement, vous venez d'avoir une promotion, la vie vous sourit, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Alors vous recherchez à combler ce vide par tout un ensemble de choses. Beaucoup de ces choses peuvent être bénéfiques à l'homme, suivant l'usage qu'il en fait, s'il en fait un bon usage, comme par exemple la famille, le travail, le sport, les vacances, les voyages, l'intérêt pour les arts, pour l'histoire, pour la littérature, et des choses aussi comme l'action humanitaire ou l'engagement politique. Et d'autres choses sont intrinsèquement mauvaises, comme la débauche, l'immoralité sexuelle, la recherche effrénée des plaisirs. Mais même les choses qui sont bonnes en elles-mêmes ne comblent pas ce vide qu'il y a en vous. Et quant à la recherche effrénée des plaisirs, on sait bien qu'elle amène à des réveils difficiles, ce qu'on appelle en français la gueule de bois, comme on dit, et surtout la destruction de la vie. Mais prenez par exemple le travail. Le travail, c'est une valeur chrétienne très importante. Ses bienfaits sont très nombreux, aussi bien pour celui qui travaille que pour ceux qui bénéficient de son travail. On a consacré toute une étude là-dessus dans notre Église. Et donc c'est certainement loin de moi l'idée de dire que le travail n'est pas utile. Mais le travail tout seul, aussi noble soit-il, n'étanchera pas cette soif. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le roi Salomon qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, et donc qu'on trouve donc dans la Bible. Il a réfléchi sur ces choses et il dit ceci concernant son travail. Donc ça se trouve au chapitre 2 de verset 11. Chapitre 2 verset 11, il dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Il parle aussi de la vanité des richesses matérielles et de l'argent. Il dit ceci au chapitre 5, verset 9. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Et c'est la réflexion que fait en quelque sorte Ésaïe dans le deuxième verset de notre passage, où il dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» En d'autres termes, si vous vous confiez dans votre travail et dans l'argent que votre travail procure, vous ne serez pas rassasié. Le vide sera toujours là. En fait, tous les gouvernements essaient d'élever le niveau de vie, d'éradiquer la pauvreté, de supprimer le chômage dans leur pays, d'améliorer la santé. Et l'intention est louable. Et même s'ils y arrivaient, même si tout le monde vivait dans le confort matériel, dans la santé, le plein emploi, la sécurité, ils ne seraient pas rassasiés. Le vide serait toujours là. D'où vient le problème? Il est bien résumé, je trouve, dans un verset du prophète Jérémie, donc c'est le prophète qui se trouve juste après Ésaïe dans la Bible. Donc on va regarder un verset au chapitre 2. Et donc Jérémie, lui, prophétise parmi le peuple de Juda 100 ans après Ésaïe, environ, gros 100 ans. aux environs de 600 ans avant Jésus-Christ. Il prophétise donc un peuple qui avait été enseigné dans la loi de Moïse, donc dans la loi de Dieu, depuis près de 1000 ans, mais ils avaient rejeté Dieu pour se tourner vers les idoles païennes. Et voici ce que Dieu leur dit, donc à cause de ça, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 13. Il dit ceci, il dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Cette phrase, elle est adressée en particulier au peuple d'Israël, mais elle est valable pour l'humanité tout entière. Après que Dieu ait créé le premier homme, Adam, celui-ci a rejeté son créateur, il l'a abandonné, comme dit un peu le passage. Il a cru le mensonge de Satan selon lequel lui et sa femme seraient des dieux. Et ils se sont trouvés séparés de Dieu, du seul vrai Dieu, et ils ont mis leur confiance dans leur propre réalisation. Et ainsi leur fils Caïn, qui était le premier fils d'Adam, celui qui a tué son frère Abel, eh bien, la Bible nous dit qu'il construisit une ville. Et les hommes en firent autant. Après le déluge, ils construisirent la tour de Babel, puis tous ces grands empires d'Assyrie, de Babylone, de Rome et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Mais toutes ces réalisations furent des citernes crevassées qui s'effondrèrent les unes après les autres. Le penseur chrétien français Blaise Pascal, donc qui a vécu au XVIIe siècle, dit ceci, écoutez bien, parce que c'est très lié finalement à ce que nous venons de voir sur Adam. Il dit, il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. Dans Jérémie, Dieu dit en quelque sorte, vous avez échangé une source d'eau vive pour des citernes crevassées. Imaginez un agriculteur dans une région aride, comme l'était Israël. Il a creusé des citernes et les a remplies d'eau pour arroser ses champs. Et lorsque vient l'été, il va aux citernes pour puiser de l'eau, mais elles sont vides. En fait, elles étaient crevassées. Toute l'eau est partie. Toute l'eau a fui. Et finalement, toutes les choses comme le travail, le sport, la culture, l'engagement humanitaire, aussi bonnes soient-elles, si c'est en elles que nous mettons notre confiance, quand nous en aurons réellement besoin, nous nous rendrons compte qu'elles ne sont que des citernes crevassées. Et qu'il n'y a plus d'eau. Je pense à ces personnes dans cette crise humanitaire du Covid-19 qui se sont trouvées en soins intensifs, faisant face à la mort seule, et elles ne pouvaient même pas voir leur famille, parce qu'on ne pouvait pas les admettre en soins intensifs. Et en quoi toutes ces choses que j'ai citées pouvaient-elles leur apporter quelque réconfort? Toutes ces choses étaient des citernes crevassées. Eh bien, le verset de Jérémie, comme vous l'avez peut-être remarqué, il nous dit que Dieu est une source d'eau vive. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ce dont le paysan en Israël avait besoin, ce n'était pas des citernes qui se vident, mais d'une source d'eau vive, dont le courant d'eau jaillissante ne tarit jamais, même pendant la chaleur de l'été, et avec laquelle il peut aller arroser ses champs. Et il en est de même de Dieu. Dieu, il est la source d'eau vive, qui peut nous accompagner en toutes circonstances, même dans un service de soins intensifs aux portes de la mort. Une femme qui s'appelle Corrie ten Boom, que vous connaissez peut-être, c'était une chrétienne néerlandaise qui, pendant donc la Seconde Guerre mondiale, a été internée en camp de concentration parce qu'elle et sa famille aidaient les Juifs. Et de cet internement, elle retira cet enseignement. Vous n'apprendrez jamais, dit-elle, que Jésus est tout ce dont vous avez besoin, tant qu'il ne sera pas tout ce que vous avez. Vous n'apprendrez jamais que Jésus est tout ce dont vous avez besoin, tant qu'il ne sera pas tout ce que vous avez. Dans ces camps, elle avait tout perdu, même sa famille, même la nourriture. Mais il lui restait le plus important dont personne ne pouvait la priver, c'était Jésus. Jésus lui-même, il s'est présenté dans son ministère comme cette source d'eau vive. Un jour, il rencontra une pauvre femme samaritaine qui était venue chercher de l'eau à un puits. Et cette femme, en fait, elle avait compris que toutes les citernes dans lesquelles elle avait mis sa confiance dans sa vie étaient crevassées. C'était une femme qui avait eu cinq maris, et elle était avec un homme qui n'était même pas son mari. On dit souvent que elle était venue en fait à l'heure la plus chaude de la journée pour chercher de l'eau au puits dans la chaleur du jour parce qu'elle avait honte d'y aller le matin avec les autres femmes. Mais Jésus lui dit ceci en parlant du puits dans lequel elle est venue puiser. Il lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et un peu plus loin, là c'était donc dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, et un peu plus loin au chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jésus se trouve à Jérusalem lors d'une fête juive. Et il va donc parler à la foule. Et voici ce que nous dit la parole donc, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 37. Elle nous dit ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez que c'est encore un autre venez à moi de la Bible que vient de dire Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Exactement comme dans Ésaïe 55, il engage ses auditeurs qui ont soif à venir à lui et à boire. Mais il ajoute une précision. Il dit, celui qui croit en moi. Donc nous devons venir à Jésus et nous devons croire en lui. Nous avons vu cette expression la semaine dernière et nous avons vu que c'était les toutes premières paroles de son ministère. Jésus avait donné comme instruction, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle, c'est croire à Jésus. Et croire en Jésus, c'est en mettre en lui toute notre confiance pour cette vie et pour la vie future. En particulier, c'est mettre une entière confiance dans le fait que Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts le troisième jour, a parfaitement payé le prix et supporté la peine de tous les péchés que j'ai commis. Eh bien, Jésus nous dit que celui qui met en lui sa confiance recevra l'Esprit. Il recevra l'Esprit. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il existe en trois personnes. Le Père, le Fils, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Et Jésus promet que ceux qui croient en lui recevront le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, viendra habiter dans celui qui croit. Il établira sa demeure en lui. Vous vous rappelez que Blaise Pascal parlait d'un gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Eh bien voilà, ce manque, ce vide, cette soif, ils sont comblés et rassasiés par Dieu lui-même, qui, en la personne du Saint-Esprit, vient d'établir sa demeure dans le croyant. Les œuvres du Saint-Esprit dans le croyant sont nombreuses. Tout d'abord, il lui donne la vie spirituelle, comme une eau vive qui donne la vie à une terre desséchée. Il le convainc de péché. Il purifie en lui le péché, comme une eau vive aussi. Il met à mort le péché en lui. Et comme une eau aussi, il produit en lui un fruit agréable à Dieu. Il le fortifie. Le très grand théologien originaire d'Afrique du Nord, Augustin, qui vivait au IVe siècle après Jésus-Christ, a dit quelque chose qui est assez similaire à ce que disait Blaise Pascal. Il a dit ceci, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Notre cœur est sans repos, il y a le vide, il y a le manque. Et en effet, une fois que nous reposons en Dieu, alors notre cœur trouve le repos, parce que Dieu, le Saint-Esprit, a établi sa demeure en lui. Il y a évidemment mille choses qu'on pourrait dire sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le chrétien, mais j'aimerais conclure ce message en regardant juste un des aspects qui est l'enseignement. La Bible nous dit que ce qu'elle contient est la parole de Dieu, qui a été donc écrite par des hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Donc en fait, elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et elle nous dit également que le Saint-Esprit nous donne de comprendre la parole de Dieu. Il illumine la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Et regardons un passage qui nous montre de façon pratique comment le Saint-Esprit étanche notre soif. Il se trouve dans le premier psaume, le tout premier psaume. Et il dit ceci: Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous avez certainement remarqué que même dans nos régions qui sont relativement tempérées, on reconnaît qu'il y a un cours d'eau dans un champ parce que tout au long du cours d'eau poussent des arbres dont les racines sont abreuvées par l'eau, donc ils se regroupent comme ça autour de cette rivière. Et cela devait être encore plus vrai en Israël, qui était un pays si marqué par la sécheresse. Et ici, la parole de Dieu, c'est le sens de l'expression « la loi de l'Éternel », la parole de Dieu, donc toute la Bible, est comparée à ce cours d'eau. Le monde est aride, il ne nous abreuve pas. Il est comme un désert où rien ne pousse. Mais Dieu offre deux sources aux chrétiens pour les abreuver tout au long de leur vie sur cette terre. Il y a sa parole, qui est donc enregistrée dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu, qui est une source inépuisable pour guider le chrétien dans cette vie, et à son Esprit Saint, qui a établi sa demeure en nous et qui illumine pour nous cette parole. Alors vous qui avez soif, venez à Jésus et buvez à la source d'eau vive. Étanchez votre soif que rien dans cette vie ne peut étancher. Et pour cela, vous devez mettre votre confiance en Jésus. Jésus ne rejette personne. Jésus ne rejette personne de ceux qui viennent à lui. Ce sont les hommes qui le rejettent et qui refusent de venir à lui. Mais il ne rejette personne de ceux qui viennent à lui. Quelle que soit votre situation dans la vie, que vous ayez été élevé dans une famille chrétienne, ou que vous n'ayez jamais entendu parler de Jésus, si vous ressentez cette soif, ce manque dans votre vie, venez à lui et mettez votre confiance en lui et soyez rassasiés. Je vais à nouveau lire ce cantique que j'ai lu au début de notre message. En particulier, j'insiste sur la troisième strophe qui nous parle de l'esprit. Puis après, nous aurons terminé. Ô notre Dieu, qu'est-ce qui t'a conduit à donner ton Fils, à livrer ton bien-aimé, pour nous qui sommes anéantis par le péché? C'était ton amour sans limite qui t'a ainsi conduit à donner ton bien-aimé pour nous. Ô notre Dieu, qu'est-ce qui a conduit ton Fils à quitter son trône dans les cieux, pour verser son sang précieux, pour souffrir et mourir? Et c'est son amour sans limite pour nous qui l'a conduit à mourir et souffrir ainsi. Écoutez maintenant ce qu'il dit sur l'esprit. Qu'est-ce qui t'a poussé à répandre ton esprit depuis les cieux et avec lui de remplir notre cœur avec une paix et un amour céleste? C'était ton amour sans limite pour nous qui t'a poussé à nous donner ainsi ton esprit. Quelle est grande notre dette d'amour envers toi, notre Dieu, pour toute ta grâce. Nos cœurs devraient déborder en louanges sans fin. Ô Dieu, donne-nous de te louer pour ton amour sans limite pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné, pour toutes ces choses que tu nous as données pour étancher notre soif, pour ta parole, pour ton esprit que tu répands dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui croient en ton Fils Jésus-Christ, qui mettent en lui leur confiance. Seigneur, puisses-tu, par ton esprit, toucher le cœur de ceux qui entendent parler de toi aujourd'hui pour la première fois, et qui ont en eux ce manque, qui ressentent, Seigneur, en eux cette soif. Puisses-tu leur donner de venir aux eaux et de boire gratuitement à l'eau que tu leur donnes, de mettre leur confiance dans ton Fils Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Et Seigneur, pour les chrétiens, continue, Seigneur, à répandre ton amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, à remplir, Seigneur, en permanence ce vide qui est en nous et que toi seul peux combler. Veux nous guider ce soir, Seigneur, veux bénir tout un chacun. Je te prie au Saint-Nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.